Alors notre sujet aujourd'hui, le jardin planétaire, j'en ai donné quelques éléments au moment de la conférence inaugurale, mais je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles véritablement j'en suis arrivé à faire cette proposition, ne serait-ce que la proposition du terme, l'expression jardin planétaire. Après le jardin en mouvement, où on comprend que l'important est de faire le plus possible avec, le moins possible contre, on se trouve donc en face d'une dynamique qui n'intéresse pas seulement l'enclos, le petit enclos du jardin dans lequel on est, qui est notre jardin, disons, pour lequel on a une certaine maîtrise, qui est mesurable, par exemple, mais ça concerne la totalité de la planète, pour des raisons qui sont évidentes, parce que le vent, parce que les oiseaux, parce que les animaux, d'une façon générale, transportent les graines, parce que les espèces passent d'un espace à l'autre et parce que tout est lié. Et l'écologie nous apprend donc que cette liaison très forte a pour implication que lorsque l'on touche à un bout de la planète réagit de l'autre côté. Cette considération-là, à laquelle s'ajoutent d'autres choses qui sont des évidences dans le jardin du jardinier, par exemple le brassage planétaire, qui est quelque chose que l'on trouve à l'intérieur du petit enclos. Tous les jardins, quels qu'ils soient, sont des index, je reviendrai dessus tout à l'heure, planétaires, des index planétaires, c'est-à-dire que les espèces que l'on trouve là et que l'on y élève et dont on prend soin sont des espèces qui très souvent sont venues de partout. Et lorsque l'on voyage aujourd'hui sur cette planète, on a le sentiment très très net que l'action de l'homme, mais probablement aussi et évidemment aussi l'action naturelle, a toujours fonctionné dans une espèce de mécanisme de l'évolution qui prend en compte la dynamique du brassage planétaire, accéléré beaucoup par l'activité humaine, mais enfin, ça a dû toujours exister. Mais le constat, déjà fait allusion à ça, le plus étonnant et celui qui nous amène le plus à réfléchir sur notre action quotidienne, nos gestes de tous les jours dans notre espace d'action, justement, c'est la notion même de finitude, le fait que nous soyons contraints à prendre en compte les dimensions limitées de cette planète. La finitude dite écologique est une finitude spatiale, volumétrique, de biomasse, elle est quantitative, mais elle est totale surtout. Et en fait, elle nous amène à regarder notre espace comme un lieu dont on doit prendre soin de façon extrêmement particulière. Si au moment de l'exposition Jardin planétaire, qui a été un moment important dont je vais parler maintenant, j'ai choisi le terme de jardin pour parler d'écologie, parce qu'en réalité, c'est de l'écologie dont on parle. C'est parce que le mot jardin est plus heureux et parce qu'à l'intérieur du jardin, je le disais la dernière fois, on peut rêver. Mais c'est aussi parce que ça évite des tensions qui existent même à travers le mot écologie, qui fait débat. Il y a les radicaux de la position écologique, il y a ceux qui sont totalement opposés. Le jardin n'est pas un lieu qui est un lieu d'affrontement. Donc c'était pour moi quelque chose de très important, mais aussi et surtout le fait que le mot jardin renvoie à la notion d'enclos et que la finitude renvoie à la notion d'enclos de la même façon. On se trouve avec une convergence de sens qui est très forte. On n'est évidemment plus dans le petit espace du jardin, on est dans celui plus grand qui est la biosphère. Et ce jardin n'est pas une surface, c'est un volume, c'est une couronne, c'est la biosphère en soi, donc c'est quelque chose qui a une certaine épaisseur. Alors je vais passer tout de suite aux images pour les commenter à propos de ce que cette épaisseur-là, cette épaisseur du vivant dans lequel nous agitons, en plus ou moins bon jardinier. Et justement, cette question-là du jardin, qui est un sujet profondément écologique et politique, et bien sûr s'inspire de Gaïa. Gaïa, la Terre vue comme un seul et unique être vivant, mais le jardin, quoi qu'il en soit, suppose le jardinier, c'est-à-dire inclut l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le jardinier de ce jardin-là? C'est la totalité des humains. C'est évidemment, dès qu'on a énoncé le concept, on arrive à désigner le jardinier en disant c'est tout le monde. Tout le monde a une action sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la diversité. Donc tout le monde est jardinier, même sans le savoir. C'est assez douloureux à intégrer, puisque ce n'est pas forcément culpabilisant, mais c'est juste qu'on doit prendre conscience du fait qu'on a une responsabilité. Et ça, on ne le savait pas sur le vivant. Et d'ailleurs, le jardinier, qui traditionnellement, là aussi j'ai évoqué ces questions, était celui qui produisait, celui qui construisait l'espace, celui qui l'entretient, devient aussi celui qui a la responsabilité sur le vivant. Ça, il n'y était pas préparé. Donc, nous voilà avec ce jardin, vu à distance, comme on le voit ici, avec une prééminence des nuages dans ce point de vue-là. Aigneré, qui m'a prêté cette photo, disait qu'en repassant toujours au-dessus de la planète, au même endroit, à quelques heures d'intervalle, puisqu'il y a vécu dans l'espace, comme vous savez, pendant pas mal de temps. Et ce qui l'émouvait, c'était la mobilité des nuages, le changement de leur position au-dessus d'un continent fixe. Autrement dit, l'expression de la vie apparaissait à travers cette modification-là. Et quelqu'un qui serait venu d'ailleurs aurait tout de suite pu dire, un extraterrestre admettons, « Bien oui, voilà, la vie, c'est les nuages. » cette photo aussi, je l'ai montrée pour une raison de paysage. Cette fois-ci, je la montre pour une raison biologique, si on peut dire, ou d'immersion. En effet, nous sommes dans cette épaisseur du vivant, complètement dans la situation d'immersion, je dirais unis par le fait même que nous sommes dans le même bain, nous sommes dans l'eau. Ici, on voit bien à quel point l'habitation des humains se situe entre la couche des nuages orographiques, qui montent le matin et qui se stabilisent à certaine altitude, vers 1500-2000 mètres, sur l'île de la Réunion, par exemple, puis l'océan. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'eau entre les deux, évidemment. C'est cette épaisseur-là qui constitue globalement la biosphère. Voilà une image du canal du Panama qui nous montre un peu la même idée, la même chose. Et le sommet, ce n'est pas très haut, hein, le sommet de ces nuages, même lorsqu'il s'agit de cumulus incus, qui sont des grands cumulus en forme d'enclume et qui se forment dans des conditions particulières et qui traversent le sommet de la troposphère et qui atteignent quelquefois jusqu'à 18 000 mètres de haut, alors que ça se stabilise en général à 10 000. Vous savez, c'est la hauteur à laquelle volent les avions. Ça fait une petite épaisseur, tout ça. Ce n'est pas très grand au-dessus. Donc voilà, on est au-dessus cette fois-ci d'une couche de nuages qui est plus basse. On est sur des stratus au-dessus de Milan. Les Alpes traversent tout ça. On est au-dessus de l'eau, mais on est encore dedans, malgré tout. Aussi, même au niveau des océans, au moment de la fonte au nord de la Russie, ou sur le sol, et la vie continue dans le sol lui-même, avec l'eau qu'il y a dans ce sol, quelquefois même sans la présence de l'eau, jusqu'à atteindre la lithosphère. Donc, c'est une petite épaisseur. Cette épaisseur est simulée ici, vous voyez, avec cette couche de nuages. C'est ça, notre jardin, de son sommet, avec quelquefois des émergences au-dessus de ce que je dis être le milieu où l'on peut vivre, mais il est possible qu'il y ait des micro-organismes vivants en dehors de ce que nous appelons la biosphère. C'est très improbable. En tout cas, ça contient cette épaisseur-là, et ça s'en va dans une certaine profondeur qui, elle, est variable. Tout ça est très fin. Et surtout, c'est complètement recyclé, constamment recyclé par le fait même que cette quantité est comptée. L'eau qui va s'évaporer va retomber d'une certaine façon, et quand elle est contenue dans les plantes ou dans les animaux, elle joue à peu près le même rôle. Je dis que l'eau que nous buvons est une eau qui a été bue ou digérée ou évaporée par un certain nombre d'êtres tout au long de leur vie, plusieurs fois avant que nous en ayons l'accès. C'est aussi donc un jardin vertical, ce jardin planétaire, comme on peut le voir ici par le fait qu'il se passe sans arrêt dans cette relation entre le haut et le bas. C'est l'eau. Nous ne pouvons pas nous en passer. Et je prends comme emblème la libellule. Je la propose plus exactement parce que sa larve est une larve aquatique qui vit dans l'eau longtemps après que la libellule ait pondu son œuf, qui qui va donc dans les eaux douces, mais on peut prendre d'autres exemples avec d'autres animaux fonctionnant de la même façon. Et puis, quand la dernière mue, qui est la mue imaginale, c'est-à-dire celle où l'insecte va sortir de cette espèce de vêtement incroyable de chitine, qui est le dernier habit, voilà, qu'elle abandonne, elle va donner cette imago qu'on voit là, qui est un insecte extrêmement primitif, qui est un des premiers de la longue série des insectes que nous connaissons et qui n'a pas beaucoup changé, voire pas du tout, sauf en taille. Les libellules d'aujourd'hui sont plus petites. Mais enfin, cette image est plutôt un renvoi au mécanisme, évidemment, c'est-à-dire du fait que nous fonctionnons, nous sommes dans un système qui fonctionne comme ça, du haut vers le bas tout le temps, et du bas vers le haut. Maintenant, la façon de regarder la planète est aussi, a quelque chose à voir avec une prise de position qui est d'ordre politique. Quino, qui est le dessinateur de Mafalda, met Libertad en situation de mettre le monde à l'envers, comme vous voyez ici, et elle explique que oui, c'est très important de le mettre dans un autre sens, parce qu'après tout, c'était très arbitraire de mettre les choses en haut, car ceux qui habitent le haut se décident qu'ils sont en haut, et finalement, tous ceux qui habitent le sud, sont définitivement en bas. Et donc, c'est intéressant d'inverser. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement passé dans les mœurs, cette idée, cette prise de position, que vous savez, aujourd'hui, dans le langage, on dit, y compris pour des pays qui sont en difficulté de développement, qu'ils appartiennent au Sud, même s'ils ne sont pas dans l'hémisphère Sud. C'est quand même une curiosité. Alors, je montre cette image-là parce que m'intéresse pour plusieurs raisons, parce que le jardin planétaire est un jardin unitaire qui ne saurait séparer le Nord et le Sud. Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, si on regarde la planète par un autre bout, on voit tout à fait d'autres figures que celles qu'on nous montre sur la cartographie ordinaire. Une cartographie rare, celle-ci, officielle, bien sûr, mais fournie par ceux qui habitent cette région, les Australiens qui ont fait ça. On comprend pourquoi, mais on avait assez de ne pas se situer au centre de l'intérêt. Or, moi, elle m'intéresse, cette image-là, parce qu'elle fait apparaître quelque chose sur lequel notre regard n'est jamais ou très rarement centré. C'est un ensemble microscopique de petites émergences qui sont des îles dans le Pacifique, par exemple. Et ici, ce sont un nombre très considérable d'isolats. Or, l'une des questions clés fondamentale dans la problématique du jardin planétaire, qui n'est pas seulement comment faisons-nous pour exploiter la diversité sans la détruire, mais qu'est-ce que c'est que la diversité? Comment fonctionne-t-elle? Comment est-elle arrivée? Et en fait, que pouvons-nous faire avec? Nous en dépendons. Ça aussi, c'est évidemment quelque chose, un constat difficile à accepter. Nous dépendons de cette diversité. Diversité est laquelle est exclusivement, presque exclusivement, pas totalement, tributaire du nombre d'isolats géographiques sur la planète. À l'origine, aujourd'hui, on peut ajouter à cette origine qui suppose un très long temps dans la fabrication des espèces, ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique, on peut ajouter toutes les mutations qui peuvent être très rapides et bien sûr brutales même parfois. Or, ces isolats, voilà, alors cette fois-ci, on remet la carte à l'endroit. Voilà, par exemple, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie avec ses îles et la Nouvelle-Zélande. Enfin, vous le connaissez, sauf qu'on ne regarde pas ça toujours de la même façon. Et ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique et qui aboutit au nombre d'espèces que nous avons aujourd'hui sur la planète, dans un mécanisme de production et d'extinction de cette diversité qui, vous savez, a été le long cinq fois, nous en serions à la sixième extinction avec une origine purement humaine. Mais enfin, dans cette longue fabrication, il y a donc, à partir d'une souche commune, prenons un obstacle comme celui-ci, un relief, ou un autre comme une rivière ou un océan, il y a deux filiations qui vont se trouver complètement isolées longtemps par une montagne. Et quand ces espèces qui sont ces plantes, il s'agit ici de végétaux simulés sur ce dessin, vont se rencontrer à nouveau par un concours de circonstances, vont pouvoir ou ne vont pas pouvoir se reproduire. Si elles ne le peuvent pas, on dit, voilà, c'est une espèce nouvelle qui est apparue. Elle s'est donc, par isolement géographique, il s'est fabriqué quelque chose dans le temps qui est suffisamment différent pour qu'il y ait un être nouveau qui apparaisse. Voilà un autre obstacle. Ou alors, quelque chose de plus brutal et qui est observé avec beaucoup d'attention par les scientifiques quand un volcan naît, c'est une île nouvelle, admettons, il y en a eu récemment près de l'Islande, et là on voit arriver presque tout de suite des araignées, on se demande comment elles sont venues, et c'est extraordinaire, puis des végétaux bien entendu, il y a donc tout un mécanisme, c'est ça le brassage planétaire, qui fonctionne extrêmement bien sur la recolonisation, la colonisation à partir d'apparitions nouvelles comme celle-ci, mais qui, par isolement, vont probablement aussi contribuer à des spéciations nouvelles. Donc le nombre d'espèces sur la planète aujourd'hui est tributaire de ce mécanisme-là, et la remise en contact d'espèces qui, peut-être, avaient des points communs à l'origine, mais qui se sont complètement différenciées, et qui se fait aujourd'hui sous l'action de l'homme, c'est-à-dire cette remise en contact très brutale, peut mettre ces espèces-là en concurrence les unes les autres et on va décréter que l'une ou l'autre de ces plantes ou de ces animaux sont des plantes ou des animaux invasifs parce qu'il y a une bagarre et que ceux dont l'amplitude biologique est plus forte, ceux qui ont des capacités pionnières plus importantes, ceux qui n'ont pas leur régulateur de croissance parce qu'ils ne sont pas venus avec, vont prendre le dessus pendant un temps. La réponse du milieu dont j'ai déjà parlé fait qu'au bout d'un moment, on assiste à des constructions d'écosystèmes émergents qui sont le résultat de ce brassage et la dynamique se stabilise. Dans l'exposition Jardin planétaire, qui a eu lieu en 1999-2000, j'avais mis au point, à la demande de Bernard Latargé à la Villette, un scénario qui s'inspirait, disons, d'une réflexion élaborée dans un ouvrage qui s'appelle « Thomas et le voyageur », où le voyageur fait le tour du monde et Thomas, le sédentaire, tente de représenter ce que le voyageur lui donne comme information par écrit, c'est un dialogue épistolaire, et de le dessiner. Il s'avère que dessiner le jardin planétaire est impossible, mais les échanges à ce sujet sont des possibilités. Donc c'est tout ce dialogue, et tout, à peu près tout, dans l'exposition en tout cas, part de la notion de diversité. La construction était la suivante, je la reprends, toujours valable, évidemment. À partir d'un axe qui occupe à peu près la moitié de l'espace de cette halle, une partie qui est réservée à la diversité naturelle, une partie réservée à la diversité culturelle. La façon dont on s'occupe, dont on voit le monde, dont on l'imagine, et je reviendrai sur cette question plus tard, dans une autre leçon, a une répercussion immédiate sur la façon dont on s'en occupe. Donc il était intéressant d'opposer à chaque fois ces deux choses-là. Ici, des espèces positionnées isolément, comme pour faire allusion, si vous voulez, à l'isola géographique, des espèces naturelles, des plantes et des animaux, et là, des systèmes de civilisation, des pensées, des cosmologies, ici, de l'autre côté. C'était donc ici l'énoncé de la diversité. Il y avait d'ailleurs là-dedans, en tant que mécanisme et jeu, la possibilité d'actionner un appareil qui montrait la dérive des continents, qui montrait la multiplicité des isolats, etc. Le deuxième temps est celui du brassage planétaire. Brassage naturel, c'est-à-dire sous l'action des éléments de la nature, que sont par exemple le vent, les animaux et autres, les courants, et le brassage culturel, une action extrêmement forte depuis presque toute l'histoire de l'homme sédentarisé, c'est-à-dire l'homme fabriquant un jardin. Sur les murs du temple d'Hatshepsut à Dar el-Bahari, on peut voir comment la reine Hatshepsut faisait venir du pays de Punt, c'est-à-dire probablement Socotra, une série d'espèces venant d'encore plus loin et dont l'origine était gardée secrète, d'ailleurs. Et tout ça est gravé. C'était 2000 ans avant notre ère, je veux dire. Ce sont des histoires qui datent d'un certain temps. Et là-dedans, on avait installé un certain nombre de faits remarquables dans l'histoire de l'homme, où on assiste au transport des végétaux et leur implantation un peu partout dans tous les jardins. Et enfin, la troisième partie concernant la diversité ici, l'assemblage, c'est-à-dire la façon dont ces plantes remises dans un espace qui n'est pas forcément leur espace d'origine, mais qui correspond quand même à une zone climatique compatible avec elles, peuvent s'accoupler, s'assembler, se placer dans un biotope avec d'autres espèces qui ne leur sont pas, qui leur sont, disons, d'un point de vue du biome, compatibles. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et on a, je vais vous montrer la mise en scène de ça. Donc ça, c'était la première partie très importante, argumentant uniquement sur la question de la diversité. La deuxième partie, c'est l'utilisation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et autour d'une sorte de prairie, de grandes graminées, on avait installé des tables qui montraient les différentes expérimentations au point à l'époque. Aujourd'hui, il faudrait revisiter ça. On en aurait un peu plus à montrer. On aurait aussi beaucoup plus de dégâts à montrer en même temps. Et chacune d'elles abordait un thème particulier. Et enfin, un dernier espace, tout ça a été scénographié comme un paysage où on avait l'aspect plutôt recherche et expérimental sur les questions du jardin planétaire. La scénographie était faite par Raymond Sarti avec Christophe Ponceau. Et voilà ce que ça donnait dans la partie réservée ici à l'endémisme, c'est-à-dire la diversité naturelle. On pourrait presque parler des endémismes culturels, car on peut imaginer tout à fait que la façon de voir le monde, de le concevoir, vient aussi d'un isolat. Et les gens du Vanuatu n'ont pas la même façon de voir le monde que ceux de Bali ou que ceux de l'Amérique du Sud, par exemple. Alors voilà la scénographie, comment elle se présentait. Dans cet espace-là, on avait une tortue de l'île d'Adabra, qui ressemble à des grosses tortues éléphantines, qui sont complètement rares et qui, justement, sont endémiques et qui ressemblent à celles des Galapagos. Mais vous savez, aux Galapagos, il y a 14 îles dans cet archipel. Il n'y a plus qu'une seule espèce de tortue éléphantine, mais il y en avait 14. On a retrouvé 13 fossiles. Ça veut dire qu'il y avait, par isolage géographique, c'est-à-dire par le fait que ces tortues ne nagent pas, elles ne pouvaient pas se rejoindre d'une île à l'autre, eh bien, elles se sont spécifiées et elles sont toutes différentes. Donc, ce sont des espèces endémiques aussi, du fait qu'elles n'existent véritablement que dans ces espaces-là. On avait mis d'ailleurs, en tant qu'espèce végétale un peu particulière et rare dans le monde, une endémique du désert du Namib, et une plante tout à fait extravagante, pas celle-ci. Celle-ci a 2000 ans d'âge, elle est protégée, elle est en Namibie, à Moon Plain, dans ce désert incroyable, où on peut voir avec beaucoup de précaution cette Welwitschia mirabilis, appelée mirabilis par celui qui l'a découvert, Welwitsch, qui est tombé à genoux devant en disant comment elle vit cette plante, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas. Et elle avait mis au point des systèmes de gouttières qui, la nuit, quand l'eau se condense, vient nourrir les deux assises génératrices. Il n'y a que deux feuilles. C'est une plante qui n'a que deux feuilles. Et à partir de ces deux feuilles, le vent fabrique des lanières. Mais en réalité, il n'y a que deux feuilles. C'est une éphédracée. C'est une plante de famille un peu archaïque. Tout ça est très extraordinaire. Et donc, on avait pensé utile de montrer cette espèce-là, mais comme d'autres, hein, qui sont des singularités nées de la situation par l'isolement. Par exemple, un Dracaena draco sur les Canaries. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit totalement lié aux Canaries, puisqu'on aurait retrouvé des foyers de Dracaena draco, qu'on appelle le dragonnier, dans l'Atlas marocain. Mais enfin, c'est quand même une plante assez révélatrice des Canaries, hein, Dracaena. Et pareil, côté culturel, vous voyez là, c'était une allusion à la civilisation balinaise. La partie du brassage planétaire était plutôt une partie qui permettait, avec des outils, d'observer dans le secteur naturel les espèces telles qu'elles se répandent dans l'espace, comment elles voyagent, à partir de quels dispositifs. Donc il y avait aussi des vidéos, mais on montrait beaucoup de graines de plantes qui ont mis au point des systèmes pour que ces espèces s'en aillent le plus loin possible. Vous voyez, c'est le pissenlit. Hein. Une graine de pissenlit peut partir extrêmement haut, aller extrêmement loin et se reposer tout à coup. Une samare, une graine d'érable, que je mets ici en comparaison avec l'aile de la libellule dont je parlais tout à l'heure, juste pour montrer les convergences de formes absolument incroyables. On ne veut pas revenir en arrière. Bon. Excusez-moi. Il faut un petit temps pour revenir en arrière. Voilà. L'assemblage, le brassage culturel faisait donc allusion au doigt découvreur et on partait de très loin, mais en passant par la tulipe. C'est une époque importante où les tulipes collectionnées venaient beaucoup d'Anatolie. Et parce que je voulais qu'on parle de cette question-là, parce que la bourse est née en Hollande à la fin du Moyen-Âge. On a spéculé sur les bulbes de tulipes à un point tel que les premières ruines, à partir de la spéculation, datent de cette époque. Vous voyez, les gens qui ont perdu leur maison, leur voiture à cheval, le cheval avec, c'était des spéculations sur les oignons de tulipes. Et ça naît en Hollande. Donc, c'est intéressant d'aborder cette question-là aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Des outils, on montrait des outils qui ont servi au transport des plantes. Et au niveau même de ce brassage, naturel à gauche, culturel à droite, se trouvait un dindon, un animal vivant. Bernard et Marguerite, il y en avait deux. Au moment de Noël, il n'en restait plus qu'un. C'était comme ça, c'est l'histoire de... Mais on les avait baptisés. Et on avait mis ces dindons-là parce que ça faisait allusion à un aspect particulier et finalement positif du brassage planétaire, comme il en existe beaucoup. On pourrait lister de façon très intéressante. Ici, il s'agit du sauvetage d'une plante qui s'appelle le tambalacoque, une plante de l'île Maurice, dont la graine est très grosse et qui était probablement entièrement inféodée au dodo, lequel dodo a disparu. Et il était, on a pu le vérifier, vraisemblablement nécessaire que la graine passe dans le tube digestif de l'oiseau, que le péricarpe soit mangé, digéré, et que les sucs gastriques à la sortie aient levé la dormance des graines. Il y a énormément de mécanismes de levée de dormance, et là, c'en est une sous l'influence de ces acides. Or, le dodo ayant disparu, le tambalacoque ne se reproduisait plus. Et un biologiste localement a eu l'idée de faire intervenir un animal dont la corpulence est à peu près aussi grosse que le dodo, un peu aussi bizarre aussi, qui ne vole pas, un animal qui piète, alors voilà, un dindon, avec un œsophage suffisamment gros, et ça a été la réussite, puisque les graines à la récolte ont pu germer tout de suite. Bon, maintenant, on a inventé un compost qui a les mêmes qualités que les sucs digestifs et qui finalement lève la dormance de la même façon, c'est plus simple. Tambalacoque a été sauvé, donc sauvetage d'une espèce de l'île Maurice par un oiseau américain. Pas toujours comme ça que ça se passe, hein. Et puis, donc, l'assemblage, une partie un peu particulière où la mise en scène se faisait autour d'une tourbière et qui parlait de la question des biomes et des microbiotopes ou des macrobiotopes. Enfin, ici, ce sont des immenses zones qu'on appelle des zones climatiques où, par exemple, sous les tropiques, c'est ce qu'il y a de plus sombre sur cette carte. Et on peut imaginer qu'une plante originaire d'ici va pouvoir pousser ici ou là. C'est d'ailleurs ce qui se passe, quelquefois pas toujours, hein, mais ça se passe évidemment plus facilement de cette façon-là, et ça s'appelle un biome. Et Troll, au début du XXe siècle, a fait une carte extravagante, mais très intéressante, qu'on appelle le continent théorique, et où on voit l'ensemble de ces biomes à partir d'un équateur ici l'hémisphère sud et là l'hémisphère nord, qui est rassemblé en une figure unique. Il y a quelque chose à voir, évidemment, ça n'a pas de réalité physique, ça a une réalité biologique. C'est-à-dire qu'en effet, on a quelque chose de possible ici en tant qu'habitat pour un certain nombre d'espèces vivant dans les mêmes conditions, et ainsi de suite en fonction de chacun de ces codes-là. Et dans le site que j'avais choisi là, c'était à la fois un biome tempéré et à la fois un écosystème très étroit, qui est celui d'une tourbière, avec des espèces donc qui ne peuvent pas vivre en dehors de la tourbière. Une espèce ne peut pas vivre en dehors de son biome, sauf exception. Les grandes cosmopolites qui franchissent les limites de biome sont très, très, très rares. J'ai pu observer la fougère grand aigle dans des régions tropicales. D'ailleurs, elle se sclérifie à cet endroit-là. Elle change un peu de figure, si vous voulez. Elle visite toujours la même espèce. Mais c'est très rare, c'est exceptionnel. La plupart du temps, elles ne passent pas ces limites-là parce qu'elles ne peuvent pas vivre, tout simplement. Et à l'intérieur de ces grands biomes, il y a des microbiotopes, des microzones climatiques ou pédologiques, enfin des conditions spéciales. La tourbière en est un. Et nous avions installé un Sarracenia américain qui est d'ores et déjà en Europe, dans les tourbières européennes, et qui vit dans des conditions justement d'écosystèmes complexes émergents, aujourd'hui, de façon banale, sans prendre le dessus pour autant. Et ça se passait très bien. Ce qu'on avait prévu comme système, toujours lié à l'eau d'ailleurs, qui traduisait plutôt l'assemblage culturel ou la démonstration culturelle, c'était la rizière. Or, il s'est trouvé, c'était très, très amusant dans les 4 mois de l'expo, que des grains de riz, ont mûri pendant la durée de l'exposition, sont venus germer dans la tourbière. Ça, on ne l'avait pas prévu. Donc, cette tourbière avait cette figure-là. L'ONF et Fontainebleau nous ont beaucoup aidés là-dessus, avec le paysagiste Éric Boulouzel. Puis, on arrivait à cette grande prairie avec les tables qui démontraient ce que l'on pouvait faire à l'époque. Il y avait un certain nombre d'exemples. Hein. Tout n'était pas dit. On en avait choisi seulement quelques-uns. Par exemple, ici, dans « Ne pas blesser la terre », la façon dont aujourd'hui, sur des immenses surfaces, c'est-à-dire à des échelles quasi industrielles, on peut, avec des techniques complètement différentes, sans ouvrir le sol, comme on le fait de façon violente, en ménageant la vie dans le sol, ce dont je parlais tout à fait au début, cultiver des productions sur des très grandes distances, des très grandes surfaces. Ces techniques qui sont celles qu'on appelle des semi-directes, à partir de couverture du sol qu'on a mis en place. Il y a un premier labour et une première fauche, et ensuite il y en a plus, c'est-à-dire qu'on finit par protéger le sol et retrouver sa qualité. C'était très important à apporter comme information et dire, mais non, il n'y a pas que ce que nous faisons aujourd'hui qui est très violent, qui fonctionne. Il y a aussi d'autres manières de faire. Alors, il y avait comme ça une dizaine de tables qui parlaient de ces questions. Voilà une culture de 11 000 directs sur des très grandes surfaces au Brésil. Voilà une autre plantation d'une espèce dans un lida, dans une couverture de sol d'arachide. Donc on a deux cultures, cultures qui se superposaient aujourd'hui, redeviennent à la mode à travers l'agroforesterie. Hein. On a beaucoup changé aujourd'hui. 10 ans plus tard, on voit arriver dans nos préoccupations, nous pourtant paysagistes, sollicités sur des sujets qui sont d'habitude des sujets d'aménagement, des questions qui sont liées à la production vivrière. Ça, ce n'était pas prévu non plus. Et ça veut dire qu'il y a des urgences. Y compris sur des petites technologies, on montrait comment on pouvait agir sans faire intervenir des machines qui sont quelquefois inutiles, lourdes, dangereuses pour le sol, dangereuses pour l'air, avec la pollution, etc. Mais on abordait aussi des technologies industrielles importantes. À l'époque, on en parlait peu. Aujourd'hui, c'est banal. On dirait que même c'est plus que banal. Enfin, c'est des polémiques à ce sujet. C'est comment produit-on ces énergies-là? Tout ça participe de la problématique du jardin planétaire. Et comment analyse-t-on? À Copenhague, j'avais trouvé ces monuments à l'air pollué. Ça, c'est rare aussi. Un monument à l'air pollué, vous voyez? Donc, dans ces colonnes-là, montent des petites billes qui nous disent, à partir de là, vous ne pouvez plus respirer. Bon, donc, vous vous mettez en apnée, en quelque sorte. Bon. Mais c'est intéressant comme indication. On n'a pas ça chez nous, on devrait. Ça nous ferait réfléchir, je pense. Et puis, on montrait aussi des mises au point à partir de techniques ancestrales, artisanales, remarquables, mais modifiées. Par exemple, les Kazakadja, en Afrique centrale, se faisaient à partir de branchages immergés dans l'eau, développant des algues, attirant les poissons faciles à pêcher. Mais destruction de la forêt à cause de ces bois qu'on mettait dans l'eau. Donc, changement de technique, élevage de bambou, beaucoup plus facile, évidemment, puisque c'est des plantes qui poussent très vite, et même résultat, excellent, et la forêt revient. Or, la forêt, dans ces régions du monde, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus fragile aussi. Là, c'était le Zakadja, ça c'était toujours en Afrique centrale, un exemple montrant la façon dont on peut éradiquer à 90% et parfois plus la maladie du sommeil à travers, vous savez, la mouche tsetse. Comment faisait-on avant? Un avion, des insecticides partout, qui bien entendu tuent les mouches, etc., mais tout le reste, c'est-à-dire destruction de l'écosystème, là non, c'est un piège C'est une couleur qui attire la mouche. Elle est placée à des endroits que le satellite nous indique. Ça veut dire qu'il faut avoir du tissu bleu et un satellite. Ça, c'est évidemment plus difficile, mais on peut demander. Et on vous dit, oui, voilà la galerie forestière où il faut placer les pièges. Les mouches arrivent et à ce moment-là, elles ne parviennent jamais à repartir par là où elles sont arrivées. Ce stock, si on peut dire, en haut. Et là, on les empoisonne facilement. Mais seulement elles. Ces petites choses extrêmement importantes permettent à une société de revivre, vous voyez. Donc tout ça participait de notre réflexion. Mais bien sûr, la question même du recyclage, auquel j'ai fait allusion dans la première leçon, est une question forte, considérablement importante, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 11 ans. Cette expérience dans la ville de Curitiba a maintenant 40 ans. Ça veut dire que le maire, Jaime Lerner, lui, à travailler là-dessus en anticipant. On accède par ce petit chemin de bois au bâtiment qui est celui de l'environnement pour la ville de Curitiba. Et il est fait à partir de la récupération des poteaux télégraphiques de l'État du Paraná. C'est-à-dire qu'au lieu de... On ne sait pas quoi faire avec, au lieu de détruire ou brûler, ou on ne sait pas quoi. Et lui dit non. On va en faire un élément de construction. Donc une architecture inventive, évidemment bizarre aussi, mais très intéressante. Et dans ce bâtiment, il y a des formations qui sont destinées aux chauffeurs de taxi, aussi bien qu'aux enseignants des écoles. Enfin, comment fait-on pour ne pas polluer, par exemple, pour vivre, pour recycler, ainsi de suite. Donc voilà plusieurs bâtiments administratifs. Les serres municipales de la ville de Curitiba recyclent les pots de maté. Maté, vous savez, on boit dedans. Alors, on fait un petit trou pour le drainage, on plante les plantes que l'on veut multiplier là-dedans, et c'est pas compliqué. C'est un recyclage sans transformation. Il y en a comme ça des quantités, il y en a aussi avec transformation, évidemment. Donc, c'est constamment une préoccupation des gestionnaires de cette ville. Le tri. Déjà à cette époque, c'était en 98. Il y avait dans la ville, c'est-à-dire dans la partie la plus facile à gérer, des tris très simples. Et ça, c'est simple seulement pour les boîtes de conserve. Ça, c'est pour les produits organiques. Et ici, les papiers, les cartons. C'est une chose qu'on ne voit pas dans nos villes, hein, du tout. Bon, 40 ans, ça existe. Mais le plus étonnant, je l'avais évoqué, c'est le moment où, vous voyez, ça veut dire un déchet qui n'est pas un déchet, ou dans les favelas où on n'a pas tout ce système commode de récupération, tous les 15 jours, le camion vient, les gens apportent leurs déchets recyclables, souvent dans une brouette, comme ça, on leur pèse et on leur donne un ticket avec le nombre de kilos qui correspond à ce qu'ils ont apporté, puis ils vont au camion d'à côté où on leur donne des légumes, des fruits du jour, qui sont des invendus, mais de très bonne qualité, ce sont des produits frais, quelquefois ce ne sont pas forcément des légumes, c'est quelquefois des cahiers, des colliers, des stylos, des choses comme ça, et ils repartent. Ce qu'on appelle le troc vert. C'est évidemment quelque chose qui ne peut fonctionner que dans des systèmes où il y a une économie différente de la nôtre. Évidemment, on comprend très bien, mais l'idée est une idée très intéressante et le principe général du recyclage, évidemment, est très important. Tout a été pensé comme ça dans cette ville, y compris pour ce qui concerne les transports. Vous voyez, par exemple, l'urbaniste a refusé le plan d'urbanisme qu'on proposait depuis l'Europe ou depuis les États-Unis. C'est beaucoup trop cher, on ne fera pas de métro de toute façon. La ville est passée de 300 000 habitants à 2 300 000 en environ 30 ans à l'époque, c'était. Eh bien, aujourd'hui, il y en a plus, évidemment. Comment fait-on pour agrandir une ville comme ça avec cette vitesse-là? Il a mis au point un système de sites propres, uniquement avec des grands autobus, avec des stations particulières et de transports de lents sur les côtés à partir de véhicules, des voitures, quoi, avec beaucoup de gendarmes couchés qui ralentissent la circulation. Donc si on veut aller vite, commodément, on prend le transport en commun. Et ça, c'est partout, sur toute la ville, y compris dans le cœur. Et enfin, et comment on apprend tout ça à tout le monde? Deux systèmes, en plus de la formation classique, les phares du savoir, les petites bibliothèques devant chacune des écoles où tout le monde peut aller pour vraiment se renseigner, en plus du bâtiment destiné à l'environnement dont je parlais, puis les PIA, qui PIA veut dire enfant, hein, mais qui sont destinés aux enfants petits, souvent dans les favelas, quelquefois des famille défavorisée évidemment, et qui travaillent sur ces sujets-là partout en général. Il y a des jardins, il y a des ateliers de recyclage. Ça, par exemple, c'est fait avec du papier glacé. C'est une maquette d'architecture construite avec le recyclage du papier glacé qu'on sait mal recycler, vous savez, d'habitude. Donc, toute une production qui vient de Curitiba, qui est presque un artisanat du papier recyclé. La dernière partie de cette exposition abordait la question de recherche, et l'une d'elles, qui m'est chère, et tout le monde connaît, hein, la mission Radio-Décime qui a été proposée par Francis Allais, et qui aujourd'hui continue de circuler, va faire une mission au Laos, bientôt, à l'époque, était ici au Gabon. Il m'a invité à ce moment-là. C'est évidemment, disons, une partie très considérablement importante sur, dans cette problématique du jardin planétaire à travers la question de la diversité. La plus grande diversité existant sur la planète se situe au niveau des canopées forestières ici, également, disons, sur la canopée aussi, car canopée signifie l'interface que vous voyez là, des massifs coralliens. Donc on a deux milieux très très riches dans le monde où tout n'est pas complètement inventorié. Et en tout cas, certainement pas dans les forêts. Mais les forêts sont en très très grand péril. D'ailleurs, Francis fait une mission avec un film qu'il est en train de mettre au point en ce moment pour montrer à quel point il est important de sauver les masses forestières existantes encore aujourd'hui. Là, j'avais une mission minuscule qui consistait sur ce qu'on appelle le radeau des cimes, à cheval sur le boudin, à taper sur les branches pour faire tomber les insectes dans des bruches qui tombaient là dans des poches en plastique. On identifiait les végétaux, il y avait un échantillon avec, et ensuite il y avait tout un travail sur les insectes par des spécialistes dans la station qui était à 10 km de là, ou à 1 ou 2, enfin ça dépend des positions du radeau, parce que le radeau change de place. Alors ça, c'est le modèle d'origine, qui était celui qui a été créé en Guyane en 96. Là, il était 3 ans plus tard, il commençait à être fatigué, il y avait des rustines partout. Enfin, on pouvait encore dormir dessus et observer, faire des observations évidemment très, très importantes. Donc il y a ce jardinage intéressant et cette recherche. Et puis, il y a l'autre. Alors j'ai deux images juste pour montrer simplement l'oblitération de la planète, la violence, l'imperméabilisation, la couverture avec une vie particulière. Avant, on était en Californie, ici, on est aux Canaries. Sous ces grandes bâches plastiques, on élève des plantes qui vont être distribuées à des prix bas, élevées de façon, on va dire, conventionnelle, mais c'est plutôt dramatique, par des gens qui sont sous-payés et à qui on va revendre dans leur pays, souvent en Afrique, les mêmes produits à des prix plus bas que ceux qu'ils peuvent produire chez eux. C'est-à-dire c'est un drame complet. Et donc cette image renvoie à un drame économique et social, c'est le mauvais jardinage planétaire. Donc dans la question du jardin planétaire, il y a donc le renvoi aux jardiniers, ça veut dire nous sommes tous jardiniers, voilà. Il y a les bons, je pense à Jaime Lerner, il ne s'est pas planté un chou, hein, ce n'est pas la question. Sauf que c'est un maire et un politique qui a développé une vraie société avec une pensée envers les humains, évidemment, envers le jardin. Il ne le sait peut-être pas d'ailleurs, mais c'est pas s'il le sait, je crois. Et puis il y a ceux pour qui ce n'est pas du tout la question. La question c'est on fait de l'argent ou on n'en fait pas, point. Ceux-là, évidemment, les voilà. C'est beau d'ailleurs, hein, plastiquement, hein. Ça c'est une autre notion. La question du paysage, c'est encore une autre affaire. Vous voyez, c'est d'ailleurs ambigu et troublant, bien sûr. Alors, l'index sur j'ai travaillé seulement une fois sur cette question réellement, et à partir du biome méditerranéen dans le domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du Littoral, 25 hectares, l'hôtel d'origine Courme, c'était un banquier qui l'a fabriqué, est devenu la maison d'accueil. Et il y a 5 hectares de jardins, maintenant un petit peu plus, qui sont tous, arrivant jusqu'au bord de la mer, liés au climat méditerranéen, mais sur la planète. C'est construit autour d'un axe qu'il a fallu prolonger pour lui donner plus d'ampleur. Et sous une végétation qui existait, mais qu'il a fallu trier, on a glissé, on peut dire, des paysages. C'est une collection de paysages appartenant au biome méditerranéen, Donc voici le concept, j'avais déjà évoqué cette question. Méditerranée, Californie, Chili central, Afrique du Sud, Australie du Sud-Ouest et un petit peu la Chine, même s'il n'y a pas de vrai climat méditerranéen en Chine, il y a un autre symbole, la famille des protéacées. Pourquoi ? C'est, disons, une image possible du protéa. Parce que le climat méditerranéen est très dispersé, mais bien répandu dans l'hémisphère sud, et assez peu dans l'hémisphère nord, en dehors de la Méditerranée, je veux dire. Et on le trouve commun à l'ensemble du Gondwana. Le Gondwana, c'était une partie de la Tétis, à l'époque, le continent unique, et se divisant pour former les continents qu'on connaît aujourd'hui, l'Afrique, l'Amérique du Sud, ce qui est devenu l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Et l'Inde, vous savez, est allée frapper ce continent nord, l'Eurasie, pour donner l'Himalaya. Alors, ce qui est resté dans l'hémisphère sud avait des flores communes, et les protéacées est une famille commune au Gondwana. Ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, j'avais choisi ce symbole à cause de ça. Voilà la spéciation, toujours par isolement géographique, mais à partir de la dérive continentale, phénomène extrêmement lent. Là, les espèces ont tout le temps de s'inventer une écriture nouvelle, une écriture génétique nouvelle, je dirais. Cette dérive a pu faire placer des continents sous des zones climatiques qu'on estime être toujours au même endroit sur la planète. Des zones climatiques que ces continents ne connaissaient pas. Et donc les flores ont progressivement découvert des climats qu'elles ne connaissaient pas et ont dû s'y accoutumer. Et dans le climat méditerranéen, elles ont dû se faire à l'idée du feu. C'est un point important dans le jardin du domaine du Rayol. La plupart des plantes sont des pyrophytes, toutes on peut même dire, mais résultant d'une sélection qui au départ a dû être un choc darwinien, et très sélectif comme ça dans le processus de l'évolution, et qui dans le temps est devenu plutôt un mécanisme lamarckien de transformation dans le temps, d'adaptation avec le feu sur des durées très longues. Voilà, les zones climatiques sont ici, pour la Méditerranée, il n'y en a pas en Chine. Voilà, ici, et bien sûr en Californie. Et le biome méditerranéen au nord et le biome méditerranéen au sud. Continent théorique. Sur le domaine du Rayol, on a disposé les paysages appartenant à ces zones climatiques de façon totalement pas du tout logique avec la carte que vous avez vue précédemment, mais logique avec les microclimats sur le terrain. Par exemple, le Chili-Est, est ici, c'était une exposition vers l'ouest, mais avec un très bon ensoleillement, ouest et sud, et le Chili, on a séparé le Chili en deux, parce que dans le Chili, il y a la zone dite méditerranéenne qui est dans le Chili central est très étendue, et on a aussi des espèces qui sont beaucoup plus proches, par exemple, de climat subtropical sec et d'autres plus proches du climat humide, mais qui appartiennent quand même à la zone méditerranéenne. Donc tout ça est assez ample. En Nouvelle-Zélande, par contre, on s'est rassemblé le long d'un talweg. C'était là qu'il y avait le plus d'ombre. Les plantes néo-zélandaises ont besoin de plus d'humidité que les autres, et ainsi de suite. Vous voyez, l'Australie est là, l'Afrique du Sud est là. Alors on voyage dans ce jardin d'une région du monde à l'autre. Ce n'est pas un jardin botanique à proprement parler, parce qu'il n'est pas étiqueté classiquement. On va trouver le nom des espèces dans un bâtiment qui est l'ancienne ferme, là, où il y a, à travers des ordinateurs qu'on peut interroger, à peu près tout, mais pas sur le terrain. On a, par exemple, le premier jardin référant à la Méditerranée méditerranéenne parle des cystes, pyrophytes par excellence, qui ont des durées de vie assez courtes et qu'on est obligé de renouveler de temps en temps. Je vais faire un tout petit point là-dessus tout à l'heure à propos du feu. Donc on a un paysage qui est assez libre comme ça, avec toutes ces plantes qui sont inféodées à la question du feu. Le jardin des Canaries, qui est marqué par les Dracaena et par les échiomes, ces espèces de grandes vipérines bleues, très, très surprenantes. Il y en a un grand nombre, ils sont tout à fait liés au paysage canarien, parce que là aussi, il fallait arriver à trouver les quelques plantes qui restituaient un paysage. C'est une collection de paysages et pas une collection botanique. Et donc, on fait apparaître dans ce jardin-là des dominantes paysagères. Avec des éoniums qui sont liés aussi au paysage canarien. L'Australie, on l'aborde par un grand eucalyptus qui est le plus vieux, qui était là avant, mais on le scénographie particulièrement et on montre par là que les écorces ont un rôle important dans la protection du sol. Donc il y a une mise en place de ces écorces-là. Cette partie australienne côtoie la partie sud-africaine. C'est une des images du début. Aujourd'hui, il y a beaucoup évolué. Les plantes sud-africaines se sont multipliées à partir de tous les aloès. Vous savez, il y a 250 espèces d'aloès en Afrique du Sud. Ça sent que 5 auréoles, hein, qui peuvent pousser là. Et puis, bien sûr, les plantes australiennes remarquables, comme notamment l'Exanthorea. Je vais en dire un mot après. Et les Restionacées, une plante extraordinaire qui ressemble à un jonc, et on arrive à la zone de rocaille. Ces trois images que vous venez de voir se ressemblent beaucoup en tant que plantes. Elles se ressemblent, ces plantes. Les Xanthoréa ont des feuilles filiformes comme ça. Les Restio, on dirait des joncs. Et les Dasylirions, on dirait aussi. Trois familles botaniques complètement différentes, ce qu'on appelle des vicariants, et appartenant véritablement à des mondes, des origines géographiques, mais des origines botaniques différentes. Et ça, c'est très curieux aussi. Et comment, sous une pression climatique, certaines espèces ont décidé de se conformer de la même façon. Bon, ça, c'est donc la rocaille avec les agaves, les aloes, etc., les céréus, puis la zone néo-zélandaise, qui est beaucoup plus humide, avec les titris, un certain nombre de plantes qui évoquent la zone de Taupo, où se déploient toutes ces espèces de prairies blondes couvertes de carex. Vous voyez, ça, c'est un paysage de l'origine de Desert Road, qui est dans le centre de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est très typique, c'est très particulier. Ces plantes couvrent le sol, ce ne sont pas des graminées, ce sont des cyperacées. Puis la zone chinoise, qui est aussi dans le Talweg, parce que c'était là qu'il y avait les bambous d'origine et on en a rajouté avec des cycasses. Et enfin, la Nouvelle-Zélande, on arrive avec les Phormiums, là où moi j'avais vu en Nouvelle-Zélande des lins, ça s'appelle lin de Nouvelle-Zélande, cette plante-là, pousser le long dans des endroits humides, comme des marécages, vous voyez, comme ici. Il était donc question de les remettre dans leur biotope. Vous les voyez partout dans des conditions très différentes, mais ce n'est pas leur milieu d'origine. Là, on s'en occupe pas, dès qu'elles poussent au bord de l'eau, tout va bien. Ainsi que les fougères arborescentes. On a pu acclimater. On nous avait dit que ce n'est pas possible à cause du Mistral, mais finalement, si. Et donc, elle pousse très bien. Beaucoup de choses à dire sur cette flore néo-zélandaise très particulière, avec des feuilles toutes petites, des végétations divariquées en zigzag. Enfin, ce sont des étrangetés. Là aussi, des sortes d'endémisme. Et puis, la partie chilienne, très sèche, avec les pouillas, les céréus, plantes très caractéristiques de toute la zone du Chili central. Malheureusement, qu'on ne peut plus voir aujourd'hui que dans des réserves au Chili. Enfin, des grands espaces gérés à la façon de jardins en mouvement, des gestions différenciées. Dans la strate herbacée, où la flore indigène est très diverse, et on y a là des insectes intéressants, ce n'est pas encore exploité, mais on pense qu'il ne faut pas, ce n'est pas forcé, il n'y a pas beaucoup d'espace ouvert dans ce grand jardin. On y introduit quelquefois des gestionnaires qui viennent nous aider, comme le jardin en mouvement de l'ENS à Lyon, que je montrais la dernière fois. Et puis la partie complètement indigène, qui est une partie où se trouve la barbe de Jupiter, qui est une plante protégée, c'est une endémique méditerranéenne protégée. Elle est dans la pointe, qu'on appelle la pointe du figuier, et là, elle est revenue très très bien depuis qu'on n'a rien fait, très bien de rien faire. Hein. Et là, on a dit juste on protège, et elle est revenue. Gestion différenciée partout, avec la strate herbacée de graminées, d'acanthes, de freesia ou de pervenche. Le feu, problématique commune à la totalité de toutes ces espèces que nous avons mis là. En fait, quand le projet s'est élaboré, que je suis arrivé d'abord en Afrique du Sud, cette photo est en Afrique du Sud, j'ai vu qu'on ne s'occupait pas beaucoup du feu. On le laissait faire, parce qu'on a l'habitude. Et j'en ai tiré la conclusion, après avoir fait un peu un tour de ces endroits qui brûlent dans le monde, sous des climats méditerranéens, tous vers la fin de la saison, vers la fin de l'été, que finalement le feu était un outil de gestion. En effet, la plupart des espèces qui vivent dans ces conditions-là sont des espèces qui ont l'habitude de brûler, depuis toujours, depuis bien avant que l'homme ne soit sur la planète. Et les graines ont besoin de chocs thermiques pour que soit levée leur dormance. Certaines espèces ont besoin que leurs fruits soient ouverts, comme les achéas, qui sont des plantes australiennes qu'il ne peut pas ouvrir avec un marteau. Il faut la température pour libérer les graines. D'autres, on dit, sont des pyrophytes passives, comme le chêne-liège supporte le feu, l'écorce joue un rôle très considérable. Les pyrophytes actives sont celles qui ont besoin du feu pour assurer la naissance à partir de leurs graines. Donc là, ça intéresse la sexualité. Ces deux mélanges, pyrophytes actives, pyrophytes passives, pyrophytes qui ont les deux rôles aussi, parfois actives et passives, font que toutes ces plantes-là ont besoin du feu. Les restionacées qu'on a vues tout à l'heure, qui ressemblent à des joncs en Afrique du Sud, sont des plantes qui ont besoin du choc chimique, qui est dans la fumée. C'est-à-dire, c'est, s'il n'y a pas de fumée, eh bien, ça ne germe pas. Au domaine du rayol, on met les graines de cyste dans la poêle, pas longtemps, hein, sinon ça... On fait un petit choc, comme ça, et on est bien à germer. Il ne faut pas les cuire, hein, juste un choc. Et pareil pour les graines de restio, dans un sac en plastique, on en fume comme on fait pour les abeilles, vous savez. Et on obtient ces résultats-là. Tout ça participe du génie naturel. C'est l'histoire du dindon et du dodo, comme l'histoire ici de ces levées de dormance par des chocs thermiques. Ce sont des mises au point qu'on a mis du temps à comprendre, mais qu'on ne sait pas forcément complètement utiliser. Sommes-nous capables de nous servir du feu comme un outil du jardinage? La nature le fait, mais nous avons peur du feu. Ce qui pour nous apparaît comme un cataclysme, comme une catastrophe, peut pour la nature apparaître comme quelque chose d'efficace, d'utile. Bon, il y a des espèces qui souffrent des grands incendies, les tortues par exemple, qui ont du mal à s'enfuir et d'autres, mais en règle générale, dans ces paysages-là, les plantes et les animaux vivent avec. Donc voilà un incendie que j'ai observé, je suis revenu plusieurs années de suite, c'est à Sandy Bay, c'est au sud de dans la péninsule du Cap, au sud du Cap de Bonne-Espérance. Il s'achève à la mer, donc on ne s'en occupe pas trop. Je reviens après, on voit le paysage brûler. Ça brûle dans des cyclopes, ce sont des acacias qui viennent, eux, d'un autre pays du monde, de l'Australie d'ailleurs. Ils sont assez mal vus, mais ils recolonisent les milieux sablonneux après les incendies. Ce sont des pionniers des dunes. Ils avaient été d'ailleurs implantés là pour stabiliser les dunes à l'origine. Aujourd'hui, on les combat parce qu'il y en a trop. Repousse là des espèces indigènes. La plupart du temps, il y a ce qu'on appelle les pélargoniums, mais aussi des fire lilies qui arrivent et qui ne viennent à fleurir que lorsque le feu est passé. C'est une plante dont le bulbe demande à être chauffé, si on peut dire. Voyez, des mésembryanthémums locaux, indigènes, qui reprennent le dessus, et ainsi de suite, et la flore se reconstitue de cette façon-là. Puis, il y a des gestions, ça c'est une photo en Australie, où là, on prévoit la question du feu en le mettant et en le surveillant. C'est assez rare, parce que ça présente des risques. Et autrefois, en Méditerranée, on utilisait ce qu'on faisait, on appelait les petits feux d'hiver, dans toute la côte du Var et l'Estérel. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, et d'ailleurs, les incendies sont beaucoup plus violents à cause de ça, hein. Voilà le black boy typique. Ça s'appelait black boy, aujourd'hui ça s'appelle grass tree, parce que black boy ça devient un peu désobligeant, disons. Il s'agissait de nommer, ils avaient nommé comme ça les Anglais, ces plantes apparaissant comme des corps humains sombres, avec des cheveux comme ça, et en général une hampe florale qui ressemble à une lance, comme un guerrier sur le pied de guerre. Et voilà, aujourd'hui ça a changé de nom, mais c'est une Xanthorrhea qui a brûlé, voilà un champ qui a brûlé, qui d'ailleurs est pâturé maintenant, on est en Australie. Et on voit encore la base de ces feuilles calcinées qui protègent le cœur de la plante. Ce n'est pas des vrais troncs, ce sont des stipes, et les feuilles repoussent tous les ans. Ces plantes-là, qui ont 2 mètres, 3 mètres, 5, 2 mètres de haut, 2 mètres 50, ont 200, 250 ans. Elles ont brûlé plusieurs fois. Alors, je termine avec un projet qui n'est pas encore, aujourd'hui, n'existe pas encore, mais qui a quelque chose à voir avec la question du jardin planétaire et les animaux. Il s'agit des fortifications Vauban à Maubeuge. Il y a eu une tornade à Maubeuge en 2008. C'est très rare, les tornades. Vous savez, c'est un phénomène violent qui, sur le tracé de cette tornade, enlève les maisons, les arbres et tout. Il s'est passé sur le centre de cette ville. Il fait beaucoup de dégâts. Les arbres sont tombés, mais on a découvert un paysage qu'on connaissait bien, mais qu'on n'avait pas aussi bien vu depuis fort longtemps, les arbres étant tombés. Ce sont ces fortifications Vauban. Et il y a dans l'angle de ces fortifications qui restent un parc zoologique petit, très bien fait, qui a été construit au moment du parc Vincennes. Et c'est les mêmes personnes qui s'en sont occupées. Et il est question de son extension. Donc nous avons travaillé avec les gens du parc zoologique dans ce paysage-là, vous voyez, très, très dévasté, le paysagiste Philippe Thomas à Lille, pour proposer quelque chose qui imbrique les deux. Mais on a visité le parc zoologique. Alors là, évidemment, nous qui sommes paysagistes, nous n'avons pas l'habitude de voir ces animaux, vraiment, de nous y intéresser en tant que, à la fois, être de diversité, mais être dans le paysage. Ils sont dans des cages. Mais on voit quand même, il faisait froid, il y avait un peu de neige, le tigre et la tigresse, très contents, dehors. Bon. Tigre blanc. On nous dit oui, ils sont là en protection parce que dans la nature, de toute façon, ils ne voient pas leur proie, donc ils sont en danger, ils ne peuvent pas se nourrir. Parce que les proies s'en vont. Pardon, excusez-moi, vous avez compris ce que je voulais dire. Les proies les voient, eux ne voient plus le vrai. Voilà, c'est ça. Bon, on passe au lion d'Asie. Moi, je n'ai jamais vu de lion d'Asie. C'est plus petit, c'est brun, ça aboie, enfin, c'est très curieux. Et je ne savais pas qu'il y avait des lions en Asie, d'ailleurs. Et puis, enfin, d'animaux en animaux, comme ça, en passant par le capybara et autres, le chameau du Tibet, etc., tout ça étant des animaux en très bon état, on nous dit, voilà le loup. Le loup à crinière. Et il est timide. Mais ça avait l'air d'être une vedette, et en effet, le loup sort de sa cabane, on voit le museau, puis les oreilles, puis il avance tout lentement, et alors il avance à l'amble, comme une girafe. Donc ça donne une démarche chaloupée très curieuse, et on est fasciné forcément. Il a une crinière, en effet, il est roux, il est très beau, et puis on me dit, il est végétarien. Alors là évidemment, je vais lui faire un jardin. Et c'est comme ça qu'est né le jardin, le projet du jardin du loup à crinière, qui se passera dans ce niveau-là, avec une végétation un peu voisine de ça comme paysage. Celui-ci étant pour les humains, avec une visibilité directe gratuite vers lui, parce qu'il n'est pas très connu. Et alors pourquoi je pense que ça peut être, dans ce contexte, quelque chose qui se réfère au jardin planétaire ? Voilà donc ce paysage simulé, hein, si vous voulez. C'est parce que, voilà le loup, c'est parce que les parcs zoologiques aujourd'hui échangent leurs bébés. Donc on fait s'accoupler, échangent leurs parents plutôt, et leurs bébés on les envoie ensuite dans leur pays d'origine si on le peut. Et une partie des petits, pour tout ça pour éviter de la consanguinité, une partie des petits sont élevés comme d'habitude dans les parcs zoologiques, les autres sont sevrés petit à petit. Et à ce moment-là, s'ils ont la capacité à vivre seuls, on estime possible de les remettre dans leur milieu d'origine. C'est assez intéressant. Ça se passe à l'échelle planétaire. Ce loup habite le nord de l'Argentine, le sud du Brésil, une partie de toute l'Amérique du Sud, la partie centrale de l'Amérique du Sud, si on veut. Et il est en péril. Mais il faut associer à ça une pédagogie vers les populations qui habitent ces régions-là pour que les animaux ne soient pas braconnés, vous voyez. Donc c'est évidemment quelque chose qui associe toutes sortes de problèmes. C'est complexe. Ce sont les gens du parc zoologique de Douai-la-Fontaine qui s'en occupent beaucoup en France et qui sont les conseillers techniques de l'extension du parc zoologique de Maubeuge. Alors on espère que ce projet verra un jour naissance bientôt. On espère. C'est très long de mettre en place l'extension d'un parc zoologique. Alors, vous avez peut-être vu sur la carte du domaine du Rayol une partie, je termine avec ces deux images-là, marquée inculte. Ça, c'est une bizarrerie. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. Je n'aurais pas marqué ça. Je dis, qu'est-ce que ça signifie dans un paysage de mettre ce mot-là ? Est-ce qu'on peut cultiver ou pas ? Mais enfin, en gros, ça recouvre quoi ? C'est pour aborder le sujet prochain. Le tiers paysage, un culte, voilà. C'est là que se développent les barbes de Jupiter au domaine du Rayol. C'est là que poussent les pins d'Alep qui se sont multipliés sur toute la côte méditerranéenne, mais aussi d'autres arbres, et les chênes lièges et les chênes blancs, etc. Des plantes rares et des plantes plus communes. Mais c'est un culte ? Est-ce que c'est un culte ? C'est un accueil, en tout cas, à une certaine diversité, et c'est ce thème-là qui sera développé à travers... le thème du du tiers paysage en début janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.